Cap Sport, la rediff.
Ça va tourner rond ce soir dans Cap Sport. Le Critérium Jurassien se déroule ce week-end. Le départ a été donné il y a quelques minutes. L'occasion de parler un peu de rallye automobile, la situation actuelle de la discipline, mais aussi son avenir en Suisse et l'état de la relève. Et puis en seconde partie d'émission, rencontre avec un jeune retraité du football, Dylan Stadelmann. Le Prévotois a en effet décidé de raccrocher ses crampons suite à l'annonce du retrait de son club, Volun, de la Challenge League. L'occasion donc de revenir sur son parcours, le parcours de l'ex-junior du FC Moutier, un parcours qu'il a vu revêtir successivement les maillots de Lausanne Sport, Yverdon, du Stade Lyonnais, de Ville et donc de Volun. Bonsoir et bienvenue dans Cap Sport. Ce week-end, c'est la bagnole qui sera reine dans le Jura. Le 41e Critérium Jurassien a débuté il y a une demi-heure. Les premiers départs ont été donnés depuis Seine-Légier, Jérémy Pignard.
Oui, c'est parti depuis 18h avec une première étape qui se déroule donc en soirée. On y sera en direct évidemment sur RFJ juste après Cap Sport dès 19h. Demain, deuxième étape dès 6h30 avec une arrivée prévue autour de 19h. Le Critérium Jurassien, intéressant cette année parce qu'on aura forcément une passation de pouvoir. Et oui, le double vainqueur de l'épreuve et champion suisse des rallyes 2017, Sébastien Caron a annoncé sa retraite surprise il y a quelques semaines. La succession est donc ouverte. Cap Sport en profite pour tenter de faire le point sur le niveau du rallye en Suisse. Et justement, on va en parler avec le champion en titre, Sébastien Caron. Bonsoir.
Bonsoir.
Et évidemment, quand on parle de rallye dans le Jura, Olivier Burry n'est jamais bien loin non plus. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous parce que vous êtes en direct depuis le terrain. Quadruple champion de Suisse dans les années 90, également une quinzaine d'épreuves WRC au compteur. Plus de volant pour vous sur le Crité, c'est le fils, hein, Michael, qui a pris la relève. Peut-être avant de donner la parole à Sébastien Caron, Olivier Burry, est-ce que la retraite du champion en titre qu'on a avec nous, vous diriez que ça ouvre une nouvelle ère dans le rallye en Suisse?
Bah écoutez, effectivement, Sébastien a dominé ces dernières années d'une façon qui était de m'admettre. Je trouve un petit peu, j'ai du mal à accepter, je lui ai jamais parlé, mais j'ai du mal à accepter qu'il prenne sa retraite à 40 ans, alors qu'il était dans sa plénitude de pilote. Et il prend sa retraite avant d'avoir goûté une fois une manche mondiale où il aurait pu vraiment aller voir. J'ai lu un article sur lequel une fois il rêvait d'aller faire le Tour de Corse. Voilà, c'est clair que sous le coup d'émotion, quand on a pris un coup dur comme il l'a pris, c'est sûr qu'on est un peu dépité, on perd confiance et tout. Mais je suis persuadé et je parierais fort que Sébastien se remettra d'ici quelques années au volant d'une voiture et se redonnera plaisir.
Sébastien, Jérémy, allez-y.
Non, mais Sébastien Caron, justement, pas de regret pour vous? On entend Olivier Burry qui dit « Ah, c'est dommage presque pour le rallye suisse que vous ayez arrêté ».
Oui, je te remercie Olivier, mais c'est vrai que c'est une décision qui a été quand même mûrement réfléchie. Ça faisait déjà une année que j'avais dans la tête, dans l'esprit, de gentiment arrêter, de calmer. Et puis avec les épisodes qui sont passés l'année passée, en ce début d'année, c'est vrai que j'avais plus trop envie de prendre ces risques-là. Et pour moi, c'était sûr dans ma tête que j'avais envie d'arrêter. Sinon, si j'avais des regrets, j'aurais fait le mauvais choix en fait.
Pour Sébastien Caron, on l'a bien compris, le monde du rallye en Suisse a été quelque peu surpris par votre décision de vous retirer en mars dernier. Mais après cette décision, comment voyez-vous maintenant la relève dans le rallye suisse?
Écoutez, c'est vrai que pendant 3 ans, on s'est beaucoup disputé avec Ivan Balinari sur les rallyes. Donc je le vois un petit peu solo là sur les prochaines manches qui viennent. Et je pense qu'il y a un petit décalage après avec les poursuivants, avec des jeunes qui malheureusement, comme Michael qui roule pas assez, mais qui ont un sacré talent, ou Cédric Althaus, mais c'est vrai qu'il y aura une petite différence. Je pense que Balinari va se retrouver un petit peu tout seul.
Balinari qui fait partie des grands favoris, si ce n'est le grandissime favori peut-être pour le Crité Jurassien qui commence ce soir. Olivier Burry, vous avez côtoyé le niveau international en WRC, les Français sortent des champions du monde, les Nordiques ont toujours un nombre hallucinant de pilotes engagés dans ces épreuves-là. Qu'est-ce qui manque au rallye suisse pour justement placer un pilote dans ces catégories WRC? Est-ce que c'est juste la petite taille de notre pays qui nous pénalise, ou il y a d'autres choses dans les structures, dans les entraînements, dans les temps au volant?
Non, mais écoutez, je crois qu'on a fait de la Suisse un pays petit par sa taille et petit par ses champions, ce qui n'est pas le cas. On a des pilotes qui roulent au WEC, on a des pilotes qui ont roulé en championnat du monde, qui ont réussi à avoir à montrer que notre petit pays de 7 millions d'habitants réussissait à faire des grands champions. Malheureusement, il manque une structure comme la France là, l'Italie là, l'Espagne là. Ça veut dire que donner des moyens à des jeunes de pouvoir s'expatrier, d'aller voir autre chose que nos radis suisses, des talents, il n'y a aucun souci. On en a autant que les autres. Simplement, la différence, c'est qu'on n'a pas cette façon de faire et on n'a pas la culture. On a déjà un pays qui est déjà divisé en deux, presque en trois. On a déjà la partie suisse-allemande qui n'est pas représentée. Donc, toute l'énergie du sponsoring est dédiée par la Suisse romande et qui est quand même une minorité. Donc, il ne faut pas se cacher. Et malheureusement, pour créer des talents, il faut de l'argent. Voilà. Et l'argent nous manque. Et quand on peut faire des expériences extraordinaires comme je les ai vécues, que je les souhaite à tout le monde, parce que j'espère que tout le monde puisse une fois aller goûter un WRC et de voir ce que c'est que l'ambiance du mondial et l'ambiance de faire un rallye qui est totalement différent de celui qu'on fait pendant 20 ans ou 15 ans dans ces mêmes routes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, c'est une question d'argent et cet argent, ben, il manque. C'est pas une question de manque de qualité parce que je suis persuadé qu'on a autant de qualité. Et ce qui est juste dommage pour le championnat suisse, que Sébastien laisse une place effectivement qui est difficilement remplaçable pour l'instant. Mais l'adversité fait que nos pilotes progressent. Et plus on a des champions qui se battent très très haut, plus l'adversité est forte et meilleurs sont nos pilotes quand ils peuvent partir à l'étranger pour le peu qui ont la possibilité de le faire.
Sébastien Caron, justement, vous qui avez dominé le rallye suisse durant plusieurs années, ces dernières années, est-ce que vous avez le sentiment peut-être qu'en Suisse, on plafonne, qu'il est difficile d'aller voir un peu plus haut ?
Bon, écoutez, c'est comme Olivier dit, le problème, c'est qu'on n'a pas une structure derrière. Donc après, personnellement, c'est très difficile de monter un programme déjà pour rouler au niveau suisse. Les budgets sont difficiles à trouver. La partie alémanique... Il s'intéresse très peu au championnat de Suisse des rallyes, donc c'est très difficile d'avoir des gros sponsors. Pour moi, personnellement, j'ai toujours essayé de trouver pour faire le championnat de Suisse, mais j'aurais jamais pu faire une manche du championnat du monde qui coûte encore bien plus cher qu'une manche de championnat de Suisse.
Maintenant, Sébastien Caron, que vous êtes entre guillemets en retraite, est-ce que ça vous tente de vous investir pour essayer justement de développer ça ? C'est quoi la suite pour vous maintenant que vous avez lâché le volant ?
Bah écoutez, la suite, c'est la retraite, simplement.
Mais vous savez qu'on fait toujours un tas de choses en retraite. Les retraités sont les gens les plus occupés du monde.
Hein. Ah oui, c'est sûr. Bah, écoutez, le week-end passé, j'étais à Berlin. Là, j'ai pu profiter pendant que les autres tournaient en reconnaissance. J'ai pu visiter une ville aussi, mais j'étais à vélo, par contre. Mais non, effectivement, je vais quand même prendre du plaisir. Je vais faire des sorties sur circuit pour me détendre, on va dire, parce que le virus quand même de la voiture il est toujours là. Mais c'est comme j'ai expliqué, c'est plus le facteur de prise de risque ou par rapport aussi à mon job. C'est vrai qu'il m'a fallu 3 semaines après le rallye du G pour remettre à jour mes affaires et j'aurais dû ressauter sur un rallye du Jura. Il y a des choses qui passent avant, et par rapport au travail, par rapport à la famille aussi, ça. J'ai envie de passer un petit peu plus de temps aussi avec mes enfants. Ils font des compétitions, que ce soit ma fille des agrès ou mon fils du foot. J'ai envie d'être un petit peu plus présent. C'est vrai que des fois, ça me fait un petit peu mal de partir 4 jours et puis de laisser ma famille ici. Et puis toutes ces choses-là, quand je les ai mis dans la balance, pour moi, c'est pour ça que j'ai pris une décision de stopper le rallye.
Mais Sébastien, quand on entend par exemple à Sébastien Loeb qui dit après le rallye du Valais l'an dernier, à part en WRC, j'en ai pas vu un plus fort que Sébastien Caron, ça vous laisse pas une petite envie d'un peu plus quand même ?
Bah non, je suis très fier de ce qu'il m'avait dit au rallye du Chablais. C'est vrai que c'était un super compliment venant d'un quelqu'un qui est 9 fois champion du monde. Après, ces compliments-là, je les garde bien dans ma tête, bien au chaud. Mais j'éprouve pas un désir particulier d'aller montrer au monde entier que je suis vite ou j'en sais rien, quoi. Moi, j'ai toujours fait du rallye pour moi-même, personnellement. J'avais vraiment le plaisir, j'avais la niaque étant plus jeune. J'ai croché, et puis maintenant, j'ai moins envie. Et puis tout simplement, c'est clair que quand on a pris la décision dans la tête d'arrêter, pour moi, la tête aurait pu être à 100% sur la route, et puis après ça vient dangereux.
Bon, moi, j'ai une autre réponse parce que je me permets de le couper parce que j'imagine que Sébastien a plus envie d'aller voir sa fille et son fils faire du foot, il est agréé. Pourquoi il veut couper? Il veut couper rapidement parce que c'est clair que s'il continue de rouler comme je le fais et puis qu'après son fils se met à vouloir faire du rallye et sa fille aussi, ça va commencer à venir de beaucoup, beaucoup plus compliqué. N'est-ce pas? Tu crois pas?
Exactement, il faut pas trop leur donner envie. On sait ce que c'est.
Avec les années, ils vont oublier.
Voilà, exactement. Mais c'est vrai que c'était pour eux, la première action, c'était de me dire « Ah non, arrête pas, on t'a connu comme ça ». C'est vrai qu'eux, ils m'ont toujours connu à faire du rallye. Et comme j'arrête, je tourne une page, et pour eux, ça fait bizarre que leur papa fasse plus de rallye, quoi.
Ouais. Juste avant de se quitter, Olivier Burry, peut-être un dernier mot sur les chances jurassiennes ou arc jurassiennes pour ce week-end. Le fils, Michael, clairement, il vise un podium.
Oui, bah écoutez, j'espère que Michael sera capable de faire un podium. Là, c'est clair que le rallye est parti d'une façon compliquée parce qu'on a eu, un peu de la pluie, on a eu des éléments un petit peu perturbateurs.
Il y a le choix des pneus qui va être important.
Voilà, un choix de pneus qui vient de faire où je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Mais bon, on verra le chrono de la première. En tout cas, il est bien dans sa tête avec son navigateur Anderson, c'est vraiment une bonne paire. Ils ont une voiture qui va super bien. On a fait un bon setup dessus. Ils ont tout qui est réuni pour faire une très belle course. J'espère que leur choix de pneus ne sera pas pénalisant ce soir.
Voilà. Et il est parti avec quoi du coup alors?
Alors il est parti avec 5 intermédiaires légèrement pluie. Et moi je lui avais conseillé de partir style Monte Carlo avec 2 slicks et 2 mixtes. Et 2 mixtes dans le coffre pour partir de la deuxième spéciale avec 4 mixtes. Alors, on verra qui aura raison. Mais de toute façon, c'est lui qui aura raison, vu que c'est lui qui est parti avec ce choix de pneus, comme Ivan Bagnilari et les autres pilotes du team de Roger Tuning. C'est vrai que c'est un peu compliqué avec Ivan, avec Michael, avec Steve Schneeberg et puis Jean-Marc Salomon. Ça fait un grand team avec 3 potentiels palpables pour le podium. Mais c'est quelque chose qui est sympathique et qui est rigolo à gérer.
Ben merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon crité à Olivier Burry et puis Sébastien, bonne retraite alors.
Ah, c'est gentil, bon, merci.
Allez Seb, à la
merci
proche.
Beaucoup, très bonne à soirée messieurs. Olivier. Au revoir.
Cap Sport, la rediff.
C'était la semaine des remontadas en football. La Roma a retourné le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions après avoir pourtant perdu 4-1 à l'aller. Un exploit qu'a bien failli réussir la Juventus de Turin face au Real de Madrid, double tenant du titre. 3-0 pour le Real à l'aller, 3-0 pour la Juve au retour, jusque dans le temps additionnel et ce fameux pénalty accordé au Real que Ronaldo transformera. Un pénalty qui a déclenché l'ire de Gianluigi Buffon et qui a fait couler beaucoup d'encre. Jean-Paul Picci, notre Bianconero à nous, revient sur cet épisode pour lui tragique.
Un pénalty qui ne cesse de faire tapoter les claviers. Pour les Madrilènes et pour d'autres, il est indiscutable, à tel point qu'il ne cesse de le justifier. Preuve certainement qu'il ne l'est pas tant que ça. Car pour les Juventini et pour d'autres, il est scandaleux ou généreux. À mes yeux, il est litigieux. Le joueur du Real Vázquez paraît tomber vite. Le défenseur, la Juventus, Benatia, s'appuie légèrement avec les mains dans son dos. C'est du 50-50, selon moi. Certains arbitres le sifflent, comme M. Oliver. D'autres ne l'auraient pas fait. Et ce n'est en tout cas pas avec la vidéo qu'il est possible de se faire un avis net et tranché. Du coup, il faut s'en remettre à l'interprétation indissociable de la pédagogie dont doit faire preuve un arbitre, comme par exemple ne pas forcément sortir son carton jaune à la première faute, à la première minute de jeu. Eh bien, selon moi, il n'a pas fait preuve de cette pédagogie. En cas de doute, à ce moment-là, de ce match, dans les dernières secondes d'un quart de finale retour de Ligue des Champions, avec pour conséquence la qualification, eh bien, ce doute, j'aurais aimé qu'il soit en faveur du jeu. À l'image de ce qui se fait en hockey sur glace, en NHL, où les arbitres se montrent plus souples dans l'application du règlement pour que le sort du match ne se décide pas sur une pénalité qui n'est pas indiscutable. Dommage pour ce Real Juve, une double confrontation d'anthologie, la maîtrise espagnole à l'aller, ce but hallucinant de Ronaldo, le public italien qui applaudit le geste, le portugais qui fait étonnamment preuve d'humilité. Et ce match retour au goût d'impossible pour la Juventus qui au fur et à mesure est devenue plausible possible. Les prolongations paraissaient tellement logiques dans l'histoire de ce match, 30 minutes haletantes et peut-être plus, qui allaient décider de l'issue de l'une des plus folles remontées de l'histoire de la compétition. Mais il n'en fut rien et je le regrette amèrement.
Et justement, notre prochain invité, c'est un ex-footballeur, Dylan Stadelmann. Bonsoir. Alors, péno ou pas péno?
Bonsoir. écoutez, c'est toujours un peu compliqué à dire, mais c'est vrai que le contact, il y a un contact qui est très léger. Après, c'est clair que le Madrilène, il joue très bien le coup, il se laisse vraiment bien tomber. Toujours compliqué pour l'arbitre, car je pense qu'à ce moment-là, il a une pression énorme. Pour moi, je pense que le contact est beaucoup trop léger pour ce que la pénalty à ce moment-là, quoi. Même si c'est durant le milieu de match, pour moi, je pense pas qu'il y a pénalty.
Cap Sport.
Et oui, donc, après avoir eu un retraité du rallye, portrait d'un jeune retraité du football maintenant, on l'a entendu. Son club, le FC Vollone, a décidé d'abandonner le statut professionnel pour la saison prochaine. Il n'a malheureusement pas trouvé de nouveau challenge et a donc raccroché les crampons. Ses trois frères sont footballeurs dans le Jura, son père est entraîneur à Moutier. Autant dire que chez le Prévotois, Dylan Stadelmann, ça respire le football. Dylan, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup, Dylan, d'avoir accepté l'invitation pour un jeune retraité. D'ailleurs, comment ça se passe, votre vie de jeune retraité? Est-ce que vous arrivez à digérer cet arrêt un petit peu forcé quand même?
Oui, forcé, oui, mais après, c'est clair que c'était une décision de ma part aussi. Il y a eu beaucoup de petites... comment expliquer ça? En fait, j'ai eu beaucoup de petits signes, en fait, comme j'ai eu à Ville. Il y a eu un petit problème par rapport au club aussi. J'ai eu des blessures. Maintenant, c'est à Vollone. Et pour moi, c'est un signe qu'il fallait que j'arrête à ce moment-là. Et c'est clair que c'est une décision qui n'était pas facile à prendre au début. J'ai beaucoup réfléchi. Après, j'ai eu beaucoup aussi d'opportunités de rebondir ailleurs en Challenge League et notamment après les promotions. Mais j'arrive à un moment de ma vie où j'ai besoin d'une pause. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter à ce moment-là aussi.
Donc plus que le manque d'opportunités, c'est le manque d'envie de continuer qui vous a poussé à prendre la décision?
Oui, exactement. Et surtout, ça fait déjà un petit moment, plusieurs années, là, que je suis en désaccord avec la Ligue. En fait, comment ça se passe, la Challenge League, c'est vraiment un peu... c'est très ennuyant de jouer dans la Ligue, dans la Challenge League, car il y a très peu d'ambition et de challenge. Vu qu'il n'y a qu'une équipe qui monte et qu'une équipe qui coule, il y a beaucoup d'équipes qui sont entre deux, dans le ventre mou, comme on dit. Et il n'y a pas tellement d'ambition. En fait, tu joues pour jouer et voilà. En fait, t'as l'impression de perdre des matchs amicaux chaque week-end, excepté les derbies. Puis moi, ça me plaît pas. Moi, j'ai besoin de challenge et d'ambition. Donc c'est aussi ça qui, en fait, c'était plus un ras-le-bol qu'autre chose, quoi. Et en même temps, j'ai reçu une opportunité de travailler chez Tamedia à Zurich, et c'était vraiment le bon moment pour moi de mettre fin à ma carrière professionnelle.
Et puis en plus, le problème des petites ligues, c'est qu'on voit les mêmes adversaires 4 fois, 5 fois par an, quoi. Et ça, des fois, c'est pas forcément drôle non plus. Famille de footballeurs, Dylan, on l'a dit, avec trois frères dans le foot, un père dans le foot. Comment ça a été pris, votre retraite? Vous qui avez été le seul de la famille à jouer au niveau pro, comment toute la fratrie a encaissé ça?
Non, c'est clair que pour eux, c'était pas non plus évident, mais ils l'ont très bien accepté parce qu'ils ont su que c'était aussi bien pour mon avenir, le fait d'arrêter et de commencer un travail sur Zurich. Donc avant tout, ils ont pensé à mon avenir et à mon bien, et ils l'ont très bien pris et très bien accepté. Voilà.
Vous savez, Dylan, que quand on est 5 footeux dans la famille, faut une maman qui assure. Et la vôtre, elle a passé sa vie au bord des terrains. Noémie Renevet a passé un petit coup de fil à Corinne Stadelmann pour savoir comment une maman peut gérer 4 fils footballeurs. On va l'écouter.
Dylan, il a commencé à l'âge de 3 ans à l'école de foot au petit crampon à Moutier. Donc en parallèle, ça arrivait que les frères aient un match en même temps. Leur quatrième frère, il arrive un tout petit peu après, donc j'arrivais à gérer 3. Mais après coup, quand il y a eu les 4, je faisais vraiment tout en sorte pour que je puisse aller les voir. Donc des fois, ça arrivait aussi même que j'aille voir une mi-temps à une place et puis voir la deuxième mi-temps d'un autre à une autre place. Mais des fois, ça s'arrangeait bien qu'un jouait le samedi après-midi, un autre le samedi soir et le dimanche. Alors là, c'est arrivé que j'en loupe un, mais sinon, je faisais en sorte que je les vois les 4.
Du coup, dans la famille, Dylan, c'est le seul à avoir atteint le niveau pro. Est-ce que ça, à l'époque ou encore aujourd'hui, ça suscite quelques jalousies entre frères ou vraiment c'est que de la fierté pour toute la famille?
Ah non, du tout. C'est vraiment de la fierté pour toute la famille. Ses frères sont vraiment fiers de lui. Puis ils l'ont toujours bien soutenu. Quelquefois, ben, ça n'allait pas bien. Bon, moi, je ne sais peut-être pas tout. Ils se parlaient peut-être entre eux. Mais non, ce n'était pas du tout de la jalousie. Alors, non, ils étaient fiers de lui. Ils sont toujours fiers maintenant de tout le parcours qu'il a eu. Et puis, ça donne aussi des opportunités d'aller voir des équipes qu'on n'aurait pas pu aller voir. Donc, il y a eu la Côte d'Ivoire quand il était au Stade Lyonnais. C'était des choses magnifiques, quoi.
Puis, juste encore, si vous aviez un petit message comme ça à lui passer, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous y diriez?
Je souhaite qu'il réussisse dans sa vie, dans ce qu'il a choisi maintenant. Parce que vraiment, il a eu des blessures. Il a eu vraiment, quand il a fallu faire les tests pour entrer en équipe suisse à 15 ans, il était blessé. Après, ça allait bien. Il a fracturé le tibia péroné. Après, il y avait toujours autre chose. Et puis, il a vraiment ramé pour s'en sortir. Et puis, même financièrement, on l'a aidé comme on a pu. Et maintenant aussi, s'il vient, je vais encore faire tout ce que je pourrais, mais je lui souhaite vraiment une belle carrière dans ce qu'il a choisi. Et puis, la réussite, s'il reprend quelque chose dans le foot, que ce soit au niveau d'entraîner des juniors, parce qu'il a des juniors, ou s'il fait entraîneur par la suite, que tout lui réussisse, parce qu'il le mérite.
Dylan Stadelmann, quelques mots, une petite réaction sur ce que vous venez d'entendre?
Non, c'est vrai que ça touche, quoi.
Elle est émue, la maman.
Ouais, non, c'est clair, mais je la comprends tout à fait aussi, parce qu'elle a quand même beaucoup vécu au bord du terrain avec moi. Elle m'a suivi partout pendant de nombreuses années. Donc vraiment, chaque week-end, partout où j'allais, que ce soit à Genève, au Tessin, ou partout, elle était chaque fois là. Et je pense que pour elle aussi, ça va être pas facile aussi à gérer ce moment-là, mais je pense qu'elle va s'habituer, là, donc il n'y a pas de souci.
Dylan, pour finir, je vous propose un petit jeu des sept familles, parce qu'il y a quand même beaucoup de footballeurs dans la famille Stadelmann. Donc il y a Davy qui joue en équipe 1 à Moutier, il y a Evan qui joue au SR Delémont, il y a Jonas qui joue en équipe 2 à Moutier, et il y a Dionys, le cousin, qui joue aussi au SR Delémont, d'ailleurs qui a cartonné en Coupe de Suisse, si vous avez suivi ça, il a mis pas mal de buts.
Exactement, bien sûr.
Je vous propose un petit jeu des sept familles, vous me répondez à chaque fois, qui fait quoi. Dylan Stadelmann, dans la famille Stadelmann, je vous demande, qui est le plus mauvais perdant?
Davy.
Qui est celui qui aime mettre des coups sur un terrain?
Davy.
Vous êtes le seul à avoir joué en pro, mais franchement, en vrai, c'était qui le meilleur?
Je pense que c'est mon petit frère Evan.
D'accord. Il y en a plein qui m'ont dit Jonas, moi, qu'il avait du ballon, c'était
terrible.
Ouais.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
Dans la famille Stadelmann, qui est le plus maladroit devant le but?
Ouf, c'est possible que c'est moi, alors.
C'est honnête de le reconnaître.
Exact, ouais.
Et alors, celle-là, vous n'avez pas le droit à un joker. Dans la famille Stadelmann, qui se laisserait le plus facilement déconcentrer par une jolie blonde au bord du terrain?
Ouf, compliqué à dire. Comme ça, là, c'est...
Tout le monde.
Je sais pas ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là, mais en tout cas, moi, ça m'arrive pas, ça.
Ah, ça vous arrive pas, c'est le jeu, le ballon avant non. Tout.
Oui, bien sûr, une fois que t'es dans le match, t'es concentré, tu fais abstraction à ce qui se passe autour de toi.
Dylan, juste pour finir, quand je vous ai appelé la dernière fois, vous étiez en train de courir, hyper actif, toujours besoin, par contre, de, voilà, même si on travaille chez TAM Média, de manger du sport.
Non, c'est clair que là, par rapport au foot, j'ai essayé de prendre un peu de la distance. Après, le côté sport, c'est toujours en moi. Le côté sportif est toujours en moi. Et c'est clair que je fais régulièrement du sport, presque chaque jour. Et des fois, je vais courir à la pause de midi aussi. Donc, il faut que je me tienne en forme. Quoi.
Eh ben, merci beaucoup, Dylan. Bonne continuation dans votre nouvelle carrière. Et puis, merci beaucoup pour cette petite tranche de vie que vous êtes venu partager avec nous.
Avec plaisir.
Merci, très bonne soirée.
Pareillement, merci bien, au revoir.
Merci beaucoup d'avoir suivi Cap Sport. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Belle soirée.
Bon week-end sportif, ciao.
Cap Sport, la rediff.